Assez curieusement, mais c'est une nécessité, il existe des médiateurs dont la tâche est de régler les litiges entre la toute-puissante administration et les petits administrés que nous sommes. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura aussi des querelles et des divisions. Quand ces frottements sont entre peuples et que chacun campe sur ses positions, le moindre quiproquo risque de mettre le feu aux poudres. Pour éviter ces luttes, on a besoin de faiseurs de paix, de conciliateurs, qui permettent aux antagonistes de renouer le dialogue. Tous les conflits entre les êtres humains remontent au péché d'Adam et Ève, qui a fracturé la relation entre le Créateur et nos premiers parents. L'auteur de l'Épître aux Hébreux explique comment la mort de Jésus sur la croix a réconcilié Dieu et les hommes. Je continue à lire dans le chapitre 9 de cet Épître. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Verset 15. La tâche essentielle du système sacerdotal juif était d'offrir constamment des animaux en sacrifice, mais ces pratiques sanglantes et écœurantes ne réglaient jamais une bonne fois pour toutes le problème du péché de l'homme. Cependant, Jésus est venu et s'est offert lui-même sur la croix. Ce sont les vertus spirituelles de sa mort qui font que la nouvelle alliance qu'il a scellée en son sang est incomparablement supérieure à l'ancienne. Selon la justice implacable de Dieu, l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra, dit un prophète. Ce que l'apôtre Paul confirme quand il écrit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Il s'ensuit que pour s'approcher de Dieu, il est nécessaire que la dette du péché soit réglée. C'est ce que Jésus a fait pour quiconque croit en lui, ainsi que pour ceux qui, sous le régime de l'ancienne alliance, avaient foi en l'Éternel. En effet, tous les croyants de l'Ancien Testament, depuis Abel jusqu'au dernier juif fidèle de la fin du système lévitique, était pardonné par anticipation, à crédit en quelque sorte. L'apôtre Paul fait allusion à toutes les époques qui ont précédé la venue et la mort de Jésus quand il écrit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Il faut bien comprendre que les sacrifices d'animaux n'ont jamais effacé le moindre péché. Ils l'ont couvert tout au plus en attendant la venue du Sauveur qui par sa mort l'a véritablement fait disparaître à tout jamais. L'humble obéissance de l'Israélite au précepte de la loi de Moïse était une preuve de sa foi et l'Éternel l'acceptait comme tel. Dieu était patient et indulgent parce qu'il savait que son Fils verserait son sang. D'un autre côté, Dieu n'est pas prisonnier du temps comme vous et moi. Pour lui, le sacrifice de Jésus a toujours été un fait accompli. L'apôtre Pierre écrit « Dès avant la création du monde, Dieu avait choisi Jésus pour cela, et il apparut dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. » Jésus est le pont, le trait d'union, le point de rencontre, le médiateur et le seul entre Dieu et les hommes. Le sang qu'il a versé est hors du temps et de l'espace et expie les fautes de tout être humain qui a foi en Dieu, quelle que soit son époque, ce qui veut dire que la valeur de la mort du Christ est rétroactive. Ce concept n'était pas nouveau pour les Hébreux puisque dans le système lévitique, le sang appliqué sur le propitiatoire, le couvercle du coffre sacré, pour le grand jour des expiations, couvrait les fautes de l'année écoulée. La justice absolue de Dieu est pleinement satisfaite par la mort de Jésus. Voilà pourquoi c'est lui le seul médiateur et c'est par lui que tout homme peut obtenir la vie éternelle. Les Juifs ont toujours eu de grandes difficultés à reconnaître cette vérité parce qu'ils ne pouvaient pas accepter un Messie qui devait mourir. Conscient du problème, l'auteur va donner trois raisons pour lesquelles il fallait que Jésus meure. Je continue le texte. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Versets 16 et 17. Il faut d'abord remarquer qu'en grec, le même mot signifie « testament » et « alliance ». Un testament fait loi uniquement après la mort de son auteur. L'idée est simple. Il fallait que Jésus meure afin que la nouvelle alliance prenne effet. Je continue. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope. Et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple en disant « Ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. » Puis il a aspergé aussi avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Versets 18 à 22. Dans ce passage, le mot « sang » est mentionné 6 fois. Les 3 raisons pour lesquelles Jésus devait mourir sont, premièrement, afin que son testament prenne effet, c'est-à-dire qu'on tourne la page sur l'ancienne alliance et que la nouvelle entre en vigueur. Deuxièmement, parce que le pardon des péchés exige que le sang soit versé. C'est ce que la justice de Dieu demande. À la veille de sa mort, Jésus prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il a dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » L'argument de l'auteur sur la nécessité pour Jésus de verser son sang s'appuie sur le fait que l'ancienne alliance a également été introduite et inaugurée avec du sang. Soit dit en passant que les informations qu'il nous donne ici sont plus complètes que celles du texte de l'Exode correspondant. Car quand Moïse a ratifié l'ancienne alliance, le tabernacle n'était pas encore construit. Le régime de l'Ancien Testament était très sanglant afin de rappeler aux Israélites que le salaire du péché, c'est la mort. Pareillement, Jésus a dû mourir à cause de mon péché et c'est sa mort, symbolisé par son sang versé, qui m'épargne le jugement éternel. Le sang est le symbole d'une vie offerte en sacrifice, et c'était le moyen de purification le plus important prévu par la loi. L'Éternel a dit à Moïse, « Le sang, c'est la vie de toute créature, et moi, je vous l'ai donné, afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. » En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Cependant, le sang des animaux n'était qu'un symbole, une image du sang du Christ. Preuve en est que les Juifs très pauvres qui n'avaient pas les moyens d'offrir un petit animal pouvaient le remplacer par 2 tourterelles ou 2 pigeons. Et s'ils n'étaient même pas en mesure d'offrir cela, ils avaient le droit de les remplacer par 2 kilos de farine. Or, leurs péchés étaient tout aussi couverts que ceux de l'Israélite qui avait offert un animal ou un oiseau en sacrifice. La farine était acceptée parce que, tout comme le sang des animaux, elle était symbolique. Comme je l'ai déjà dit, Dieu passait l'éponge sur les fautes des Israélites uniquement parce que Jésus versa son sang pour la rémission de tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Le pardon que Dieu nous accorde généreusement lui a été très coûteux et nous ne devons pas abuser de sa grâce en traitant le péché avec désinvolture. Je continue le texte. Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Verset 23. Il a déjà été dit que sous l'ancienne alliance, les objets du culte lévitique étaient des images et des reflets de réalités célestes. Mais puisque les premiers devaient être aspergés de sang d'animaux, il était nécessaire que les originaux, les vrais qui sont dans le sanctuaire céleste, le soient également, mais avec le sang d'un sacrifice bien supérieur, c'est-à-dire du Christ. Et Dieu a tellement été satisfait par l'œuvre de Jésus sur la croix qu'il l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Fin de citation. Par contre, Dieu n'est pas content avec la race humaine et pour cette raison, seuls ceux qui s'approchent de lui par l'entremise du Christ sont acceptés. Je viens à Jésus tel que je suis sans rien à moi, comme le dit si bien un hymne, parce que c'est vrai, je n'ai strictement rien à lui offrir. Mais il ne m'introduit pas au Père dans cet état parce que je ne suis absolument pas présentable. S'il en était autrement, je pourrais aller à Dieu tout seul comme un grand et sans passer par Jésus. Mais quand il m'introduit dans la salle du trône céleste, je suis en Christ, uni à lui, de sorte que Dieu voit Jésus, sa justice et son sacrifice qui efface mon péché. Une fois, Jésus a raconté l'histoire d'un collecteur d'impôts qui était à la solde des Romains, une crapule qui vivait d'extorsion. Cependant, cet homme est monté au temple pour prier. Le texte dit qu'il se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !» Littéralement, il a dit « Sois-moi propice » dans le sens « Considère-moi couvert par le sang propitiatoire du sacrifice ». Il a entièrement reconnu sa culpabilité sans l'excuser et n'a pas essayé de marchander avec Dieu, ni de s'amender en promettant d'allumer un cierge, de dire une prière ou de vivre honnêtement. Eh bien, Jésus a dit de cet homme qu'il est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Je continue le texte. « Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré, c'est dans le ciel même. » afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Verset 24. Jésus est entré dans le véritable sanctuaire qui est dans les cieux, le lieu très saint qui est aussi la salle du trône de Dieu. Il y a pénétré, non en son propre nom, mais pour représenter tous ceux qui lui font confiance ou qui avaient placé leur espérance en l'Éternel. Je continue. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien, mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Versets 25 et 26. L'auteur rappelle une fois encore que contrairement aux grands prêtres de l'ancienne alliance qui devaient chaque année offrir les mêmes sacrifices, Jésus n'en a offert qu'un seul pour l'éternité. S'il n'avait pas été suffisant, il aurait fallu que Jésus souffre la mort de manière continuelle depuis le premier péché commis par Adam jusqu'au dernier à la fin des temps. Son œuvre expiatoire ne serait jamais suffisante et n'aurait pas de fin. Un tel scénario est grotesque, et pourtant, cela fait des siècles que bien des gens acceptent la doctrine du sacrifice perpétuel du Christ, alors qu'elle contredit l'enseignement de tout le Nouveau Testament selon lequel la mort du Christ n'a eu lieu qu'une seule fois, son sacrifice était parfait et définitif, et il n'aura jamais besoin d'être répété. C'est au Concile de Trente qui s'est tenu au XVIe siècle et qui a été convié par Charles Quint pour lutter contre le succès de la Réforme qu'un théologien a proclamé haut et fort « Comme le sacerdoce de Jésus est perpétuel et son sacrifice en fait partie, il faut que l'offrande sacrificielle du Christ soit également perpétuelle. » Il a convaincu l'Assemblée et ce dogme a été officialisé. Depuis, il fait partie des textes officiels de l'Église romaine. Je le lis. « La Sainte Messe est un sacrifice véritable et proprement dit. Comme sacrifice propitiatoire, la Messe obtient la rémission des péchés en conférant la grâce de la pénitence. Apaisé par l'offrande de ce sacrifice, Dieu remet les crimes et les péchés, si graves qu'ils soient, en conférant la grâce et le don de la pénitence. Fin de citation. En d'autres termes, le pardon de Dieu dépend du sacrifice de la messe. Ce dogme est clairement présent dans le crucifix, où on voit bien que le Christ est perpétuellement crucifié. Mais, comme pour répliquer à cette doctrine, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Non, Jésus est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. » Lorsque les protestants prennent le pain et le vin, ils commémorent le sacrifice du Christ. Mais c'est une simple cérémonie souvenir, rien d'autre. Je finis le chapitre 9. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Versets 27 et 28. Les expressions « une seule fois » et « une fois pour toutes » apparaissent 5 fois dans l'Épître. Elles mettent l'accent sur l'aspect définitif et unique du sacrifice du Christ, qui contraste avec le caractère répétitif des offrandes d'animaux sous le régime de l'Ancienne Alliance. Tous les êtres humains doivent mourir. C'est Dieu qui décide du moment et nul ne peut échapper à ce rendez-vous incontournable. Cependant, le pire, ce n'est pas la mort, mais ce qui la suit, c'est-à-dire le jugement à cause des péchés qui sont à notre charge. Or, il n'y a que 2 solutions. Soit ils sont placés sur ma tête, comptés contre moi et je dois en payer la dette, soit ils sont placés sur le Christ et c'est lui qui les a expiés. Il n'existe pas d'autres options. Si Jésus est mort comme tous les hommes, c'est parce qu'il était chargé de péché. Seulement, ce n'était pas les siens, car il n'a jamais commis la moindre faute. Sur la croix, tous les péchés du monde ont été placés sur ses épaules, pour ainsi dire, et ont été jugés. Jésus a subi le châtiment que vous et moi méritions. L'apôtre Paul écrit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Quand Jésus fut arrêté puis livré aux mains des Romains, le gouverneur Pilate a faiblement essayé de le libérer, puis pour des raisons politiques, il a consenti à son exécution. On avait alors préparé 3 croix pour 3 criminels. Sur 2 d'entre elles, on a cloué 2 malfaiteurs. La 3e croix était destinée à un insurgé qui s'appelait Barabbas. Il avait été condamné pour trahison et meurtre. Mais ce criminel a échappé au supplice. Il était coupable et son châtiment avait été décidé, mais on ne l'a pas exécuté parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. Ce jour-là, sur la croix du milieu, on a cloué non pas un rebelle violent et profane, mais le Fils de Dieu qui était sans péché. Et les Romains ont libéré Barabbas, non pas parce qu'il était innocent, mais parce que Jésus avait pris sa place. On a crucifié Jésus, non pas parce qu'il était coupable, mais pour qu'il puisse prendre la place de Barabbas et ma place et celle de tout autre pécheur repentant. À la fin des temps, Jésus réapparaîtra, ce sera sa seconde venue. Mais il ne viendra pas pour régler à nouveau le problème du péché, car cela a déjà été fait une fois pour toutes sur la croix. Il va revenir, entre autres, pour apporter le salut complet promis à ceux qui l'attendent et qui comptent sur lui. Cette apparition du Christ sans péché est aussi l'expérience de tous ceux qui décèdent, mais qui ont placé leur foi en lui. Au moment de leur mort, Jésus apparaît à leur côté pour les emmener auprès du Père dans les cieux. Dans l'Évangile, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre homme nommé Lazare. Le texte dit que ce dernier mourut et les anges l'emportèrent dans le sein d'Abraham qui était le paradis des Israélites sous l'Ancienne Alliance avant que Jésus ne meure sur la croix. Aujourd'hui, Ce ne sont pas des anges, mais Jésus lui-même qui se lève de son trône pour accueillir les siens. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour Étienne, le premier martyr de l'Église. Le jour des expiations, le peuple était massé dans le parvis du tabernacle ou la cour du temple et attendait que le grand prêtre sorte du lieu très saint, car s'il n'obéissait pas strictement aux instructions divines, il mourrait. Alors, quand il réapparaissait, le peuple poussait un grand soupir de soulagement, tant pour eux-mêmes que pour le grand prêtre. Tout comme les Israélites étaient impatients de le voir sortir du lieu très saint, les croyants devraient avoir hâte de voir leur grand prêtre sortir du sanctuaire céleste. C'est ce qui arrivera à la fin des temps et qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Quand le grand prêtre sortait du lieu très saint, le peuple savait qu'il avait rempli son devoir et que Dieu avait accepté le sang qu'il avait aspergé sur le propitiatoire. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, ce sera une nouvelle confirmation que son sacrifice sur la croix a été agréé. Tout comme le Père est satisfait de lui, il accepte chaque croyant car ils sont unis à Jésus. Et quand il reviendra, ce sera pour apporter le salut complet, corps et âme, puisque nous ressusciterons alors avec un corps glorifié, semblable au sien.